Et c'est parti. 12. 11.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Le que je lui dise d'aller se faire enculer.
Vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, eh ben, nous sommes en duo.
Oui.
Nous sommes en face à face, nous sommes en tête à tête. Et pas seulement à cause de la disposition des micros, parce que nous sommes deux. Et donc j'ai avec moi Ichouchou.
Bonjour.
Et nous sommes en public en délire. Non, c'est mes mains qui claquent des doigts. Mais voilà, un épisode un petit peu spécial, puisque le hasard de calendrier et malencontreuse logistique.
Ce sont des choses qui arrivent. Hein.
Exactement. Mais on vous a concocté un petit épisode sympathique. Donc, nos petits chouchous de Juanito et Camillita. Je sais pas, j'essaye.
T'essayes des trucs.
Voilà, n'étaient malheureusement pas disponibles pour cet enregistrement. Mais ils nous ont quand même envoyé des petits quelque chose. Et on s'est dit que, bah, quitte à faire un truc en duo, on allait faire un petit battle. Un battle de pourquoi ?
Oui.
Ouais, on va faire beaucoup de jingle à la bouche. Hein.
Tu vas faire beaucoup de jingle à la bouche.
Le battle de pourquoi. Voilà, donc plutôt que de se faire un long sujet, on allait interagir avec des petits. Mm-hmm. Ah, oh.
Oh. Mm. Très intéressant.
Sympa. Ah, c'est vous. Ah, bah écoute, merci beaucoup pour ce sujet. Hein. C'est, ouais, on voit que je fais tout le temps les mêmes remarques. Mais ouais, on s'est dit qu'on allait faire des petits pourquoi et qui, au final, bah, sont pas forcément si petits que ça, on va voir. Mais ouais, c'était l'occasion de parler de plusieurs sujets différents parce que c'est quand même notre petite marotte.
Oui, on n'allait pas non plus les laisser sans rien.
Exactement.
Après tout ce qu'on a vécu.
Et oui, voilà, après tous ces instants partagés. Et puis voilà, Camille et Juanito nous ont envoyé. Donc on va faire un petit battle de pourquoi. On a quoi, 4-5 chacun, je crois.
Ouais, c'est à peu près ça.
Exactement, 4. Ah bah du coup, il faut que tu commences d'ailleurs, je viens de voir ça.
C'est fou.
Voilà. Et tu finiras également. Oh là là, je suis effacé dans cette
oh
émission.
Oh my god.
Mais voilà, donc on va chacun partir sur un petit pourquoi. Les uns à la suite des autres, sinon bah, vous n'allez pas nous entendre, ça va être trop compliqué. Mais en plus, nos chers chouchous de Camille et Juanito nous ont envoyé leur propre interprétation du pourquoi.
C'est ça.
Pas toujours.
Non.
Pas toujours folle, hein.
On commence à les connaître, hein.
Voilà, on voit que la rigueur scientifique n'est pas forcément partout. Mais non, voilà, l'idée c'est d'avoir. Donc on va poser une question, on va proposer leur interprétation et ensuite répondre à cette question. Sur ce.
Eh ben c'est parti.
Eh ben c'est parti, le jingle, pourquoi? Non, là on en a.
Mais pourquoi tu fais ça, Jack?
Alors pourquoi, bon Dieu?
Pourquoi quoi?
Ben pourquoi t'as fait ça, quoi?
Pourquoi tu dis ça?
Pourquoi?
Pourquoi faire?
Pourquoi? Je ne suis pas en plus.
Tu sais très bien pourquoi.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que y a bam 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 et tac.
J'adore.
Toujours.
Alors, donc, c'est moi qui lance le bal. Et mon premier pourquoi, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise le nom de Dieu dans des insultes ?
Pourquoi ?
Merci, Philippe.
Hey.
Et du coup, bah, donc, l'interprétation de Camille, c'est bah, pour se préserver du diable. Elle croit.
Je crois. Voilà.
Elle croit. Et d'après Juan, c'est bah, parce que ça fait réagir, j'imagine. À une époque où les gens avaient davantage peur de la colère divine, évoquer son nom en vain, ça devait faire serrer les fesses à la paroisse. C'est pas faux. Il a même carrément raison. Mais juste avant de commencer, bah, en fait...
Ah, oh, bah, c'est gentil de me demander mon avis.
Ah oui, et toi, c'est vrai, tu es à ton avis.
Alors, personnellement, je dirais que quand on va s'offusquer ou s'étonner d'un truc et tout, on va imaginer que ça sort de on va dire sort de la normale et on va se dire c'est la présence divine qui va se manifester au travers de ce truc là et donc c'est sainte merde bah c'est parce que genre c'est tellement la merde que c'est surnaturel quoi.
OK. Ouais, je vois ta philosophie et ta vision de voir les choses. Non, c'est assez intéressant.
J'ai envie de faire semblant.
Non, en vrai, c'est assez intéressant. Mais juste avant de commencer du coup mon sujet, pour être totalement honnête, mon premier pourquoi, enfin l'idée de base du pourquoi, c'était venu en entendant l'expression « holy cow ». Mm-hmm. Et je me suis dit quand même...
Pourquoi une vache ?
Pourquoi une vache ? Donc, j'avais axé mon sujet dessus, mais ça allait juste durer genre 30 secondes. Je me suis dit, on va peut-être élargir un tout petit peu. Mais du coup, je vais quand même vous dire pourquoi est-ce qu'on dit holy cow. Du coup, donc, holy cow, en fait, c'est une expression qui est utilisée pour éviter des propos profanes ou blasphématoires. Donc, c'est donc des propos qui sont opposés à la religion. Et donc, on utilise un euphémisme, donc le gauche à la place de God, par exemple, ou Jeez Louise à la place de Jesus.
Jeez Louise, je ne connaissais pas ça.
J'aime bien, je l'utilise assez souvent.
Ah, Jeez, je connaissais, mais pas Jeez Louise.
Jeez Louise, bon, c'est surtout pour la rime, mais. Mais voilà. Et en fait, du coup, Holy Cow, elle a été popularisée en 1913 aux États-Unis dans un match de baseball.
Ok.
Donc aux States, pour justement éviter d'utiliser des gros mots et de se faire censurer. Parce que là-bas, tu sais, à chaque fois qu'il y a un gros mot, c'est tu. Ouais. Et voilà. Donc, c'était juste.
Genre,
ça.
C'est à la base de Holy God.
Oui, au lieu de dire. Enfin, juste au lieu de sortir une insulte, donc Holy Cow, c'est sorti.
Ok.
Ouais, ça a été. Après, il y avait aussi une histoire de la première trace de mémoire. Hein, je l'ai pas noté, mais la première trace qu'on ait de ça, c'était dans une sorte de chronique ironique où le mec il se foutait un peu de la gueule, enfin, de la société, et il utilisait une histoire avec un hindou, du coup, donc le Holy Cow, machin. Donc c'était vraiment juste une blague au début. Mais donc voilà.
Mais du coup, pourquoi utiliser le nom de Dieu ?
Oui, pourquoi est-ce qu'on utilise le nom de Dieu ? Eh bien, on l'utilise aussi beaucoup aux États-Unis. Holy shit, goddamn. Mais il y a aussi en France, vin du ou.
Ouais, parbleu.
Sacré bleu.
Ouais, exactement. Ouais.
Et en fait, ça vient du Moyen Âge. Camille sera contente.
Sauf aux États-Unis, mais.
Oui. Pour des raisons de logistique.
Ouais,
en fait, juste le fait de mentionner Dieu sans une réelle intention de l'appeler.
C'est un blasphème.
Oui, ça, c'était une grosse insulte, en fait. Et du coup, à chaque fois que tu invoquais Dieu, en fait, il.
Une bibliothèque mourrait dans le désert.
Non, mais c'est encore pire que ça, Ilias. il faisait pause dans ce qu'il faisait.
Il te regardait genre.
Et il te jetait un coup d'œil. Donc, il notait, entre guillemets, ce que tu allais dire comme prière.
Ouais, comme ta daronne quand tu joues aux jeux vidéo et que tu lâches une petite insulte. Genre, putain, elle te regarde genre, wow,
Starfoula. C'est un peu ça. Et en gros, tu sais, quand tu te maries, tu fais un serment devant Dieu, tu dis, oui, je prends l'éternité, je sais pas quoi, je sais plus ce qu'on dit. Mais du coup, voilà, Dieu, il prend note de tes paroles, il prend ton serment et. Du coup, voilà, il a noté dans son petit papier que tu t'es marié. Donc voilà, c'est enregistré. Okay. Du coup, quand tu disais « holy shit »,
il note aussi genre « oh ».
Bah, en gros, t'es en train de l'appeler juste pour lui dire « merde ».
Bah, c'est vrai, en fait, j'imagine que c'est un peu comme faire une. Tu le mentionnes sur Twitter, Insta, genre.
C'est ça, ouais. C'est ça.
Donc il est en mode « ouais, bah, ouais. J'ai déjà beaucoup de notifications. C'est si, ça. Si c'est pour dire ça, c'est pas la peine. Hein. »
Ouais. Et donc voilà, c'était un énorme blasphème. Et en plus de ça, bah, du coup, les cathos de l'époque, en tout cas, ils pensaient qu'à chaque fois qu'on appelait Dieu sans avoir vraiment une intention, enfin sans un vrai serment,
ça le dérangeait.
Bah, ça lui causait carrément du mal.
Oui, bah, c'est Dieu tout puissant quand même. Donc,
ouais, mais.
Fragile.
Si Sticks and Stones, Ilias, ok. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire du mal à Dieu?
Bah non.
Non.
Bah non. Ah. Bah parce qu'on a peur de lui.
Bah oui. Et une des plus grosses insultes de l'époque, encore une fois, c'est en anglais, c'était God's Bones.
Les
os de Dieu.
Ok.
Du coup, à chaque fois que tu disais ça, bah, les cathos, ils pensaient que.
Tes os allaient se répréhensir.
Les os de Dieu. Non, mais les os de Dieu, enfin, tu causais du tort à Dieu.
Ok, ok.
Donc, c'est haram tout ça.
Ah oui, bah bien sûr.
Et en fait, il y a un autre truc aussi que je trouvais assez intéressant, c'est toutes les insultes en mode shit, fuck, tout ça. Mm. Bah, c'était pas très commun. Enfin, c'était pas.
Bah, tout était religieux de toute façon. Donc,
Ouais, mais en fait, c'était pas choquant plutôt. Parce que c'était des choses qui arrivaient tous les jours, que tu voyais tous les jours. Les gens ils chiaient dehors, normal. Et du coup, c'est comme si aujourd'hui tu disais les masques. Tu vois, enfin.
Il y a des gens qui font ça d'ailleurs. Hein.
Oui.
Liberté.
Mais voilà, c'était, vu que c'était des scènes, des trucs qu'on vivait qu'on voyait tous les jours, bah, c'était pas si insultant que ça. Et c'est qu'à partir de la Renaissance que tout ce qui est merde,
ouais, il baise, pas le dire parce machin, que, la bienséance, tout ça.
Et c'est, voilà. C'est à partir de la Renaissance que ça devient insultant.
Ok.
Voilà.
Bah, cool, trop bien. Attends, est-ce que j'ai un... Ah.
Oh là là.
Eh bien, merci bien. Bah, trop cool.
Bah, je t'en prie.
C'était très chouette. Mmh. Eh ben moi, je vais vous proposer un petit...
Pourquoi ?
Exactement.
Oh, oh, ça tombe bien.
Quel hasard. Et ce pourquoi étant... Attendez, hop, on prend les notes. Trop de choses. Donc, ce pourquoi étant, pourquoi on est moins saoul quand on mange en buvant ?
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?
Ah. Alors, petite proposition de Camille, parce que la nourriture absorbe l'alcool, enfin, un truc du genre... Et proposition de Juan, que j'aime beaucoup, qui dit « Parce que pendant qu'on est en train de mâcher, on n'est pas en train de boire. » Alors...
Il n'a pas totalement...
Ouais, voilà, il y a un truc. En fait, les deux ont un truc, mais c'est pas ça. Mais ouais, j'aime beaucoup la deuxième idée, c'est que bah, c'est pareil, si tu bois en tricotant, bon bah, quand tu tricotes, tu bois pas, donc hey, ça marche bien.
Sauf si t'as une paille.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc alors, en fait, c'est lié au mécanisme...
Et moi, tu me poses pas la question non plus ?
C'est vrai.
Voilà, un partout.
Touché. Ouais. Touché. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Oh, merci. Bah, moi, je pense aussi que c'est, une... enfin, c'est la légende pour moi de... On éponge. Donc, à chaque fois que tu vas en soirée, on se disait... on va prendre des petits trucs à grailler, justement, pour éponger.
Alors, c'est fait, il y a... Au final... C'est pas l'explication, mais c'est un des mécanismes qui va être impliqué. En fait, on va regarder, c'est lié au mécanisme déclenché quand on mange. Considérons deux espaces de notre système digestif. Donc, c'est tout un bordel, le système digestif. On va prendre que deux espaces pour nous. Donc, l'estomac et l'intestin grêle. Donc, quand l'alcool est dans l'estomac, bah, il a du mal à passer dans le sang et donc à nous rendre.
L'intestin grêle, c'est le gros
Je crois. Ouais. Appelons-le intestin grêle. Ouais. Mais en tout cas, c'est, voilà, ce qui est important de savoir, c'est que c'est après l'estomac.
Ok.
Voilà.
C'est important.
Exactement. Ouais, parce que sinon, ça n'a plus de sens. Mais donc, quand l'alcool est dans l'estomac, bah, il a du mal à passer dans le sang et donc à nous rendre bourrés quand il est transformé dans le corps, parce que c'est la synthétisation, tout ça. Par contre, quand il est dans l'intestin grêle, c'est parti, ça passe tranquille dans le sang et donc gros bourrage d'un coup. Donc, quand on mange, en fait, on a une petite valve qui est qui se ferme entre l'estomac et l'intestin grêle, pardon, qui s'appelle le sphincter pylorique. J'aime beaucoup le nom, c'est très classe. Et cette valve, en fait, elle va se refermer pour garder les aliments dans l'estomac, pour qu'ils puissent être bah, justement digérés, décomposés, pour que la digestion se passe bien.
D'accord. Comme ça, si vous mangez... Ça régule, quoi.
Ouais, voilà. Okay. Si vous mangez une aile de poulet, bah, elle n'arrive pas dans l'intestin grêle entière. Elle va rester un petit moment dans l'estomac pour être dissoute par des acides, par des trucs comme ça.
C'est un sas de décompression, en gros.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste ça. Ça ferme, hop, ça reste bien avec les acides. Ça se fait décomposer et après, ça passe tranquillement vers l'intestin grêle.
Tu dis comment le
sphincter pylorique. Okay. C'est la petite valve.
À ne pas confondre avec le sphinx du clitoris. Enfin...
Non, vraiment, vraiment. Je sais pas. Du tout.
Non, ouais. Non, mais il y a des gens qui peuvent confondre.
Oui, oui, non, mais bien sûr. Non, tu nous parleras de ton expérience clitorique par la suite. Mais en fait, quand on mange pas, la valve est ouverte et les liquides vont filer vers l'intestin grêle directement parce que les liquides, ils n'ont pas besoin de rester dans l'estomac pour être décomposés.
Il n'y a rien à dissoudre.
Voilà. Et donc, bah, il y a une diffusion rapide de l'alcool dans le sang. Alors que quand on mange, bah, la valve est fermée et ce qu'on boit est retenu dans l'estomac avec ce qu'on a mangé. Et donc, pendant que ça reste dans l'estomac, il y a une diffusion lente dans le reste du corps.
C'est fou.
Ben c'est fou. T'as vu. Ouais, donc c'est pour ça qu'on dit que ça va éponger parce qu'en fait ça va se mélanger à la bouffe dans l'estomac et ça va se diffuser plus lentement. Mais c'est pas. C'est pas parce que c'est dilué.
Ouais,
ça
aide
un petit peu, mais c'est pas parce que c'est dilué. Okay. C'est parce que ça reste dans un espace différent et dans cet espace-là, bah, la diffusion est lente. Donc l'alcoolémie monte plus lentement et donc aussi on a le temps d'éliminer l'alcool pendant qu'on l'ingère, quoi.
D'accord.
Et voilà.
Ben, c'est fou. Eh ben merci.
Ah ben merci à vous. Merci à moi. Merci à vous. Oh, c'est fou.
On passe du coup, il y a un partout.
Oui.
Je sais pas c'est quoi le système de points, mais voilà, il y a un partout.
Bah, un partout en termes de liage.
Donc on passe au prochain qui est pourquoi et d'où vient le terme échec et mat.
Pourquoi ?
Merci Fifi. Donc d'après Juan, c'est parce que échec brillant, ça sonne bizarre. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas ça.
Terme photographique, brillant, voilà.
Et Camille qui dit, bah, parce que ça vient du persan, mais je ne sais plus ce que ça veut dire.
Oh, là, je pense qu'elle a fait semblant.
Ouais, ouais.
Je suis sûr qu'elle sait.
Et du coup, toi
merci.
À ton avis.
Bah, je pense que je connais l'explication, mais parce que c'est les échecs, c'est un jeu d'origine orientale, avec une potentielle prédominance linguistique arabisante. Et donc échec et mat, ça veut dire le roi est mort. Enfin, c'est issu de l'expression Shermet, donc le roi est mort.
Pas mal du tout, mais en fait, c'est pas vraiment arabe, mais perse.
Ah.
Donc Camille avait raison.
Camille avait un truc.
Camille, elle tenait le bon bout.
Mais je vais prendre son point quand même, parce qu'elle n'est pas là. Et les
c'est vrai, exactement. De toute façon, en plus, c'est une femme. Donc,
Oh non Oh, le dérapage au bout de deux sujets.
Oups. J'ai pris trop de café. Bien sûr, c'est une blague. On t'embrasse, Camille.
C'est une blague, c'est une femme, mais on ne se moque pas d'elle parce que c'est une femme.
Oui. Du coup, donc oui, tu as raison, Ilias, Matt, peut-être aussi interprété en arabe, qui veut dire mort. Mm-hmm. Mais c'est surtout, plus dans le côté persan. Donc, en perse, Matt, ça veut dire sans issue.
Ok.
Et chat, le roi.
Ah oui, c'est le roi.
Voilà. Donc échec, chat, Matt, sans issue. Et il y a un certain monsieur qui s'appelle Jean-Michel Péchiné.
Okay.
Qui a écrit un livre qui s'appelle Les échecs, roi des jeux, jeu des rois. Et t'as Jean-Michel qui dit toutes les pièces peuvent être prises, sauf le roi. Mm-hmm. C'est faux. Et aussi, quand il est sur une case commandée par une pièce adverse, on ne dit pas qu'il est mort, ni qu'il est pris, mais qu'il est.
Mat.
Non, en échec.
C'est vrai.
Tu dis échec.
Pardon.
Et en gros, ça.
C'est vrai que c'est bizarre de dire qu'il est en chair. Genre, hey, roi, tu es en roi.
Ça va, vieux.
Bah, je sais, en fait. Enfin, c'est mon nom.
Merci.
Ah, j'avais pas pensé à ça, c'est vrai.
Et du coup, en gros. Donc,
oui, c'est vrai que c'est échec et mat que quand il n'y a plus d'issue.
C'est ça.
Ok.
Et donc, le roi ne meurt pas, il est vaincu.
Oui, parce que c'est aussi ce qui. Oui, c'est vrai que c'est aussi ce qui se passait en termes de guerre, etc. Le but, c'est pas de buter le chef de l'État, parce que en fait, c'est complètement con de niquer un chef d'État. Faut plus le. Enfin, c'est plus intéressant de le soumettre pour qu'il puisse transférer des ordres à ses unités, à sa population. Parce qu'une fois que t'as buté le roi, bah en fait, le peuple ennemi, il va quand même potentiellement se rebeller quelqu'un prend la suite. Donc, super. Très intéressant, j'avais pas pensé à ça.
Voilà, du coup, voilà, pour. Donc, le roi ne meurt pas, il est vaincu. C'est pas toujours le cas, parce que l'histoire n'a pas.
Parce qu'ils ont vaincu.
Super. T'es con,
pardon.
Mais voilà, donc l'origine, elle vient de là.
Merci beaucoup. Bah écoute, je connaissais je pensais que ça venait plus d'une culture arabe, mais je connaissais pas l'avant persan, donc très cool.
Ouais, bah c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil.
Non, c'est pas pareil.
On va arrêter les dérapages. Hein.
Ouais. Bah, c'est juste qu'en fait, c'est littéralement pas pareil. Donc,
oui, non, mais t'es pas très loin. Et, en tout cas, le sens est le même en arabe. En fait.
Ok, et ben merci beaucoup. Alors, passons sur pourquoi on dit que la tomate, c'est un fruit et pas un légume. Lol.
Pourquoi ?
Voilà, un petit jeu d'acting. Bien sûr, mon objectif, ce n'est pas de me montrer méprisant vis-à-vis des personnes qui avancent cette information, mais j'ai plutôt vous expliquer pourquoi, pourquoi, tout simplement. Donc, alors, d'après Camille, parce que ça pousse sur un mini-arbre, en vrai, les légumes, ça existe en gastronomie, pas en science, donc scientifiquement, les légumes n'existent pas. J'aime beaucoup que les légumes n'existent pas. Genre,
c'est un complot.
Ouais, t'es dans un labo scientifique et t'es genre, non, il n'y a pas de légumes ici, non. Et Juan, parce que les légumes, ça n'existe pas, putain. C'est un complot maçonnique, ouais, c'est une orientation différente. Non, mais en vrai, les légumes, ça n'existe pas, c'est des fruits, c'est tout.
C'est bizarre, cette haine contre les légumes.
Bah, les deux ont des choses bonnes et des choses fausses. Donc on va expliquer lesquelles. Et toi ?
Et moi, c'est pas. Attends.
Non,
la question.
Tu n'es pas un légume, je sais.
La tomate, c'est un fruit, pas un légume.
Ouais.
Pour moi, c'est parce que ça a des graines.
On
m'a toujours dit ça.
Alors oui, mais il y a deux composantes dans cette question. C'est un fruit et pas un légume. Alors ma réponse, c'est parce qu'on est relou, parce que la tomate est un fruit. Et un légume.
Tu vas nous donner le nom des trucs qui ont.
Non.
Non,
non, non, les noms latins et tout.
Ouais, enfin, c'est pas.
Tomatum.
C'est pas cucurbitacé. Cucurbitacé, c'est.
Ah, les. Ouais, alors justement, en fait, je vais aborder ça rapidement.
Okay, vas-y.
Mais en fait, les deux, enfin, Camille et Juan ont raison sur une notion. C'est qu'en fait, quand on dit que la tomate est un fruit, on pense au sens botanique du terme. Donc, définition de Larousse, qui n'est pas du tout notre partenaire. mais qui est bien référencé en ligne, donc j'ai pris cette définition. Mais donc, définition du Larousse de fruits, enfin une des définitions, c'est organe végétal issu du développement de l'ovaire à la suite de la fécondation des ovules et qui, à maturité, contient les graines. Le fruit sert d'organe de protection pendant le développement des graines, puis participe à leur dissémination. C'est long. Ouais. Donc un truc végétal avec des graines qui provient d'une partie de feuilles en l'air. Voilà.
Ok.
Feuilles en l'air, t'as vu ?
Oui, c'est fou.
Rigolo. Donc par exemple, en fait, ça peut être concombre, courgette, aubergine, potiron, tomate. Juste un truc végétal avec les graines à l'intérieur et qui vient de deux éléments sexués, végétaux, quoi. Donc effectivement, le fait qu'il y ait des graines, ça joue sur le fait que ce soit un fruit. Mais ouais, au final, un petit truc vert.
Un piment.
Non, plus petit.
Que tu mets. Molokhaya. Non.
Non, mais mes parents adorent ça, mais non. J'ai pas le nom. Comment s'appelle le truc dans les sandwichs?
Cornichon.
Bon, voilà. Putain, un cornichon, ouais. Par contre, c'est... Pardon. Ouais, ceci dit, t'as pas mal géré, hein.
Ah, oui.
En trois essais. Non, mais vraiment, un cornichon.
On serait fort à Pyramide. Hein.
Ouais, t'as vu. Un cornichon, c'est un fruit? Eh oui.
Oui, parce que c'est un concombre.
Parce qu'il est, ouais, il y a les petites graines à l'intérieur, en fait.
Ah bon, il y a des graines dans les cornichons?
Un peu comme les concombres.
Ah oui, les gros, c'est vrai, oui, il y a des graines. Oui, c'est vrai.
Par contre, si on regarde la définition du Larousse de légumes, c'est une plante cultivée dont on consomme, selon les espèces, les feuilles, les racines, les tubercules, les fruits, les graines, partie consommée de cette plante. Donc en fait, ça peut être une partie. On n'est pas obligé de manger toute la plante pour que ce soit considéré comme un légume. Donc en fait, ça peut être autant des champignons de Paris qu'une pomme de terre ou une mangue. C'est une plante dont on va consommer une partie.
Ah, donc un fruit est un légume. Mais un légume n'est pas un fruit.
Oui, exactement. En fait, la première définition, elle est d'ordre botanique. Donc le fruit, c'est vraiment un truc... on parle de questions botaniques parce qu'il y a les graines, il y a les machins. Enfin, c'est au sens de l'espèce. Tandis que la deuxième, elle est d'ordre plutôt culinaire. En fait, donc c'est... Pardon. C'est pour ça que Camille et Juan avaient raison en disant « Les légumes, ça n'existe pas aux sciences scientifiques du terme. C'est un terme qui est purement gastronomique, culinaire. » Donc on peut très bien être un fruit et un légume à la fois, un champignon et un légume à la fois, une racine et un légume à la fois. Donc tranquille sur les tomates, et c'est des légumes aussi.
Merci.
Merci à vous. Mais je me rends compte que vous aviez des bonnes...
On n'est pas bêtes, hein.
Des bonnes inspirations.
On n'a pas qu'un physique, il
est n'est-ce pas?
Très bien, du coup, on enchaîne. On enchaîne avec mon pourquoi de pourquoi est-ce qu'on dit cucu la praline ?
Pourquoi ?
Ben oui !
Merci Philippe. Il est assis avec nous à la table, bien sûr.
Ouais, mais c'est un amour. Pourquoi on va changer l'ordre. Pourquoi, Elias, à ton avis, on dit cucu la praline ?
Ah, merci.
Il y a trop de Elias dans ce podcast.
N'est-ce pas ? Après, on est deux, on a intérêt à être gentil, hein, parce que sinon, on va se faire chier. Et puis, c'est bien d'être gentil. Voilà. En vrai, moi, je partirais sur... j'ai plus le nom littéraire en termes, mais en fait, je pense que c'est un nom qui vient d'un nom propre. Une pièce de théâtre, un truc comme ça, donc un personnage qui s'appelait Praline.
D'accord.
Et que vu qu'elle était un peu candide, comme certainement un personnage qui s'appelait Candide, j'en sais rien. Mais non, vu qu'il était potentiellement un personnage qui était un peu cucu, on a sorti cucu la praline. Voilà.
Et du coup, enfin, déjà pour toi, ça veut dire quoi cucu la praline?
Cucu la praline, être très fleur bleue, très
niais.
Ouais, voilà, ouais,
c'est
voilà.
C'est ça. C'est quelque chose de niais ou de ridicule. Ça peut être aussi quelque chose de ridicule. Eh bien, c'est super intéressant. Tu as en partie raison.
Merci. Attends, Camille et Juan.
Ouais, donc Camille, elle dit déjà, je ne sais pas vraiment ce que c'est une praline. Ça tombe bien puisque j'ai rédigé l'origine de la praline. On verra ça.
Ouais, et puis c'est assez rigolo parce qu'en plus, une praline, on peut l'utiliser dans différents sens.
C'est-à-dire.
Genre mettre une droite, un coup de poing, on peut dire une praline.
Ah bon?
Ouais. Okay, mais je pense que c'est parce que ça fait un gros truc sucré et qui peut être un peu dense. Comme
moi, quand on me frappe, je n'ai pas de sucre. Ok, mais du coup, donc, c'est une non-information de Camille.
Ah oh, bah celle de Juan.
Ah ouais, c'est pas beaucoup mieux. Donc il y a Juan qui nous dit, mais qu'est-ce que j'en sais, moi, putain. Typique voilà. Juan. Quoi.
Ouais, on sent qu'il a mis du cœur.
Ouais. Eh bien, écoute, je vais répondre à Camille. Donc on va commencer par revenir un tout petit peu dans le temps, au début du XVIIe siècle, pour être un peu plus précis. Du coup, donc, la praline, c'est cette noisette qui est enrobée de sucre, qu'on sert bien souvent dans les mariages. Je ne sais pas en France, mais en tout cas dans les pays arabes, c'est...
Plutôt des amandes et dragées en France.
D'accord, ok.
Mais qui est globalement une noix avec...
Bah, c'est la même chose, ouais, en vrai, dragée.
Un fruit à coque avec du sucre.
C'est
quoi.
Ça, hein. Ok. Donc, au XVIIe siècle...
Fruits à coquer. Pardon, vas-y.
Donc, à cette période-là, les cuistots, ils commencent à s'amuser à faire des tests culinaires. Des tests culinaires sucrés, des petite précision. Pour les rois de France, il faut savoir qu'on a découvert le sucre il n'y a pas si longtemps que ça.
Ouais, c'est la grande nouveauté, parce qu'avant, on sucrait avec du miel, c'est ça ?
C'est ça.
Et avec les colonies, enfin non, pas les colonies, mais les différentes ouvertures les de ports, etc. Ouais.
Mais bon, quand je dis c'est pas si loin que ça, tout est relatif, c'était vraiment 11e siècle.
Oui, donc, bon, ça fait 6 siècles. Ouais. Ouais.
Mais c'était très très rare.
Parce qu'on prend le temps passe vite. Hein.
Mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de... Ah, le sucre, c'était chelou. Donc,
oui, puis j'imagine qu'au tout début, genre, tu recevais deux morceaux de sucre, t'étais en mode oh, c'est ouf, mais je vais pas en faire des plats. Parce
c'est
que,
ça, c'est comme la pomme de terre. La pomme de terre, elle était connue, enfin, on en avait, mais jamais de la vie, on pensait que ça pouvait être.
Si délicieux.
Genre, je serais pas allé jusque-là, mais être juste cuisiné, ouais. Tout simplement. Mmh. Et c'est avec le cher Parmentier qui a
un arrêt de métro à son nom.
Qui a un arrêt de métro et qui est enterré aussi au Père Lachaise, qui a une petite tombe assez mignonne.
Ok, avec des petites pommes de terre.
Bah ouais, et puis aussi, tu as des petits pictogrammes, enfin des petites images sur sa tombe et tout. Enfin bref, on s'éloigne du sujet, j'en étais où ? 17e siècle, 11e, pas si loin que ça.
Ouais.
Et du coup, donc, c'est au 17e siècle qu'on commence à faire joujou, et qu'on fait des flans, qu'on fait des macarons, et...
Des pralines
ouais, tout
oui,
à fait.
C'est bon, je suis.
Et du coup, la praline, elle a été inventée par Clément Geluzot.
Ok.
C'est le premier duc... Non, c'est pas du tout ça. C'est le cuistot du premier duc de Choiseul, le maréchal du Plessis-Praslin.
Oh,
bien joué, Elias. Oh. Exactement. Et puis, ce bâtard, il s'est bien évidemment approprié le nom de l'invention du cuistot, hein, parce que.
Yes, logique. C'est, hein. C'est un employé, c'est une petite main.
Ouais, mais enfin, c'est un peu comme Apple qui sort un truc. On a tous l'impression qu'ils ont inventé, mais ça dénonce.
Genre le petit chiffon.
Oh putain, t'as vu ça, c'est 25 balles. Enfin bref. bref, donc voilà. Donc on a déjà l'origine de la praline. Maintenant, d'où vient cucu la praline alors ? Eh ben, on sait pas.
Parce que initialement, ça se mangeait sur des fesses.
Pas vraiment. En fait, on n'est pas certain. La première fois qu'on ait vraiment une trace de cette expression-là, c'est avec Colette. En 1933, donc finalement c'est assez récent.
Ah bah oui,
mais on pense que ça vient de bien avant ça. Enfin, on est quasiment sûr. Enfin, on est sûr même parce que au XVIIIe siècle, on découvre une île aux Seychelles qui est d'abord appelée l'île de Palme.
Ok.
Parce qu'il y a des palmes.
Voilà. Yes.
Très très. Ils avaient l'œil à l'époque.
C'est ce qu'il y a dans le Nutella aussi, non, de l'île de Palme. Bon, j'étais.
Merci, Elias.
Il fallait. Désolé.
Mais du coup. Avec le temps, enfin quelques années après, ça a été rebaptisé Île de Praline en 1768, d'après notre cher duc de Praslin, le Steve Jobs des bonbons. On lui donne son nom parce que c'était un proche de Louis XIV.
Ok.
C'était déjà pas mal.
Ouais, donc c'est un petit remerciement. Genre, allez, il y aura une île à ton nom.
C'est ça, allez. Voilà, allez. Je pense que jamais de la vie il a posé ses pieds en Seychelles. Mais enfin bref. Donc sur cette île, il y a des noix de coco. Bien spécifique, bien spécial, qui s'appelle Coco Fesses. Parce que elles ressemblent beaucoup à un popotin bien charnu, quoi. Mais c'est assez drôle quand tu tapes Coco Fesses sur Google. Vas-y, fais l'expérience si tu veux. Et puis vous aussi dans le métro, sauf si vous conduisez, faites attention. C'est assez.
Ah oui, voilà, effectivement.
Voilà, tu le vois.
Oui, ce sont effectivement des
pas,
postérieurs.
Ouais, tu dis pas, oh tiens, on dirait une manette.
Non, pas non. Là. Des poumons un peu aussi, mais Bah donc, ok, coco fesse.
Ouais, donc, coco fesse. Et tu vois, du coup, là, on commence à se rapprocher un peu de notre expression. Coco fesse, pralin, praline, tout ça. Ça fait un peu une recette de complotiste où tu prends plein de trucs. Ouais. Hein, mais enfin bon, tout ça n'explique toujours pas pourquoi.
Non,
pas du tout. Ça veut dire quelque chose de niais, tout ça, tout ça. Bah encore une fois, on n'en sait rien.
Ok.
Bah on a quand même une idée. On a une idée. Le fait qu'il y a un dédoublement de Q, donc QQ, bah ça rend le truc un peu plus enfantin.
Ok.
Et puis bah un gamin, c'est souvent ridicule, souvent nié. Et à l'époque aussi, le fait de le faire le fait de le faire suivre par un nom féminin, ça intensifiait l'expression parce qu'on disait aussi à l'époque cucu la fraise ou bien cucu la reinette. Je connaissais pas du tout ces expressions, mais cucu la reinette, moi je trouve ça.
Et tu veux dire la même chose ?
Je t'avoue, oui, oui.
Ouais, ok, ouais,
tu veux dire la même chose.
Ouais, donc au final, c'est peut-être plus cucu qui veut dire quelque chose de un peu niais.
Ouais, et puis le truc, voilà, c'était juste pour intensifier. Enfin.
Ok, pour souligner.
Ouais, on était donc dans une très belle époque très misogyne et patriarcale.
Qui s'appelle globalement les deux premiers millénaires. Quoi.
Exactement.
Même avant.
Et enfin voilà, donc on est un peu sur un niveau de pourquoi ? Eh ben parce que.
Yes. Eh ben c'est bien qu'on pose les questions qu'il faut. Hein. Bon, on n'a pas toujours les réponses qu'il faut, mais c'est bien qu'on pose les questions qu'il faut. Alors moi, je vais vous parler sujet un petit peu différent. Pourquoi on dit que les cyclistes qui portent un casque de vélo ont plus de chances d'avoir un accident ?
Pourquoi ?
Alors c'est une question qui est ressortie plusieurs fois, notamment, enfin pas qui est sortie plusieurs fois, mais dont on parle régulièrement, parce qu'il y a des études qui sont menées donc en France et en Europe pour faire des statistiques sur les accidents des personnes qui sont à vélo. Et il y a une des conclusions il y a quelques années qui a été tirée, qui était que les cyclistes qui portent un casque ont plus de chances d'avoir un accident. Mais pourquoi ? Qu'en pensez-vous, Maître Ichouchou ?
Moi, j'en pense pas, parce que je trouve ça bizarre. Enfin, pour moi, c'est une histoire de stats, juste. Mmh. Je crois que dans un de mes sujets, tout à l'heure, j'en parle aussi. Mais c'est pas vrai.
Mmh. Alors, c'est un peu plus compliqué, mais ok, je prends l'idée des stats, je prends. Kanmi nous dit parce que ça limite la visibilité comme les capuches, alors pas du tout.
Mais c'est pas bête.
Ouais, il y a de l'idée. Mais c'est vrai qu'on se sent un peu limité, pas intellectuellement, mais limité dans nos mouvements. Mais il y a de l'idée, effectivement. Et Juan, parce que quand on n'est pas équipé, on est plus prudent, j'imagine.
Ça peut être ça aussi.
Ouais, alors il y a de l'idée. Il dit maintenant, je suis tellement matrixé que je panique quand je fais une marche arrière sans ceinture. Effectivement, ouais, pareil, je mets toujours la ceinture avant de démarrer le moteur. Je déteste les gens qui démarrent sans avoir mis la ceinture et qui mettent la ceinture en faisant le premier virage.
Oh, quand t'es pressé.
Mais comment ça presser ? C'est juste à faire clic. Ah, ça me.
Comme les gens qui mettent leur ceinture de jean une fois qu'ils sont dehors. Pour toi.
Alors oui, ça me rend ouf. Ça. Je sais pas que ça existait, mais ça me rend ouf.
Dans le métro, les gens. Enfin bref.
Il y a de l'idée effectivement. En tout cas, je vois les mécanismes qui pourraient entrer en jeu là-dedans, mais c'est pas exactement ça. En fait, comme tu disais, c'est principalement une question de stats. Il y a plusieurs mécanismes, mais on va parler du biais de sélection. En fait, les cyclistes qui roulent souvent ont plus tendance à mettre un casque que les cyclistes occasionnels. Donc, si on étudie les chances. Risque de deux personnes, une qui fait tous les jours un aller-retour en vélo avec un casque et l'autre qui prend le vélo une fois par mois sans casque, la personne qui met un casque a plus de chances d'avoir un accident dans sa vie. En fait, tout simplement parce que, à probabilité égale, si on multiplie les trajets, on a plus de chances d'avoir un accident au final. Donc si on regarde des stats sur un an et qu'on regarde le nombre de personnes qui ont eu un accident, le nombre de personnes qui avaient un casque, le nombre de personnes qui n'en avaient pas, c'est simplement parce que les personnes qui portent un casque, elles vont multiplier les trajets, donc elles vont être plus présentes dans les échantillons. Donc pareil pour les personnes qui sont touchées par la foudre, si on passe toute sa vie à jouer aux jeux vidéo dans une cave, on a moins de risques de se faire toucher par la foudre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les gens qui jouent aux vidéos ont moins de chances de se faire toucher par la foudre. Bon, à moins qu'ils aient ramassé un manteau antistatique plus 5 dans un donjon, mais ça c'est une autre histoire. Mais non, plus sérieusement, en fait, c'est effectivement le biais de sélection, c'est une façon d'analyser les statistiques et les échantillons qu'on a. Il y a notamment une histoire un peu assez célèbre là-dessus qui date de la Deuxième Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises. Non, disons seconde, pour être positif. Donc, seconde guerre mondiale, qui est que, suite à certaines batailles, on avait des avions qui revenaient, et on s'était rendu compte que, bizarrement, il y avait, on va dire, une partie, en particulier des ailes, je crois, ou du corps, je ne sais plus, qui était criblée de balles. Donc, on s'est dit, donc les avions avaient été en galère, etc. On s'est dit, bah voilà, ces parties-là, elles sont criblées de balles, donc il faut qu'on les renforce. Ouais, renforce ouais. Donc, ils ont essayé de les renforcer, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que longtemps après, que c'était un problème d'un biais de sélection, parce qu'en fait, ils ont analysé l'échantillon qu'ils recevaient, des avions qui revenaient et qui avaient ces parties de balles, ces parties qui étaient criblées. Mais en fait, au contraire.
Ils ne voyaient pas le truc au global.
Exactement, au contraire, parce que l'information intéressante, c'est que. Seuls les avions qui survivent ont ont ces parties qui sont criblées. Mmh. Donc du coup, le problème venait pas de là parce que tous les autres ils s'étaient pété la gueule. Mmh. Donc c'est le fait d'analyser ça comme ça, le fait de se dire ah bah les avions qui reviennent, ils ont cette partie là abîmée. Bah, en fait, c'est plutôt les avions qui n'ont pas été touchés autre part qui sont morts en fait, parce que ceux qui ont été touchés que à ces endroits là, bah là ils ont survécu. Donc en fait, c'est le contraire, c'est que si t'es touché à cet endroit-là, bah, tu peux revenir. Si t'es touché autre part, et bah, t'es dans la merde. Donc en fait, ils ont continué à renforcer la partie qui, au final, était la moins sensible de l'avion parce qu'ils ont analysé qu'une partie de l'échantillon. Donc là, c'est pareil pour les vélos. En fait, c'est pas le fait de porter un casque qui va faire qu'on a plus d'accidents parce qu'on est plus visible, parce qu'on est moins prudent, etc. C'est quand on regarde l'échantillon, on a dans nos échantillons plus de gens qui ont un accident, qui portent un casque dans les accidents. Mais parce qu'en fait, il y a plus de. En nombre de trajets, il y a beaucoup plus de gens qui portent un casque que de gens qui ne portent pas de casque. Donc, toujours très important de questionner les échantillons et de questionner les statistiques et de. Surtout, alors c'est très bête à dire, mais quand on transforme les chiffres en phrases, très attention à ce qu'on dit, parce que ça change beaucoup de choses. Si on avait partagé simplement les statistiques telles qu'elles étaient, on n'aurait jamais fait cette conclusion. C'est vraiment. La vraie conclusion, c'est que. Parmi les personnes qui ont un accident de vélo, il y a beaucoup plus de personnes qui ont un casque. Mais c'est tout à fait normal parce qu'elles font beaucoup plus de trajets, simplement.
Il faut rajouter toujours... c'est une histoire d'interprétation, mais il ne faut pas sauter sur une conclusion. Et il faut avoir du coup, d'autres stats pour confirmer cette stat-là.
Après, il y a des potentielles explications. Effectivement, ça pourrait être qu'ils sont gênés dans leur mouvement, on n'en sait rien, mais les stats, en fait, c'est une... Les statistiques, c'est une information qui est brute. Elle est interprétable, mais elle ne porte pas d'interprétation elle-même. Donc après, on peut en faire des théories, etc. Mais de base, l'information, c'est juste que oui, il y a plus de gens dans les accidents de vélo qui ont un casque, et tant mieux pour eux, parce que aussi, quand on n'a pas de casque, on meurt plus souvent. Donc voilà, on vous encourage, portez un casque, ça ne vous fera pas avoir plus d'accidents, et ça vous fera survivre.
Et faites attention. Puis respectez le code de la route, bordel de merde. Excusez-moi.
Oui, tout à fait. Prenez soin de vous parce qu'on peut mourir
Moment.
On peut mourir facilement à vélo. Non, mais j'avoue, à vélo. Tu pètes un coup, tu te fais envoler par un camion.
Enfin, moi, je suis en train de râler parce que moi aussi, je prends le vélo de temps en temps. Et ça m'énerve.
Est-ce que tu portes un casque?
Pas du tout parce que je ne le prends qu'une seule fois. Je râle parce que des fois. Toi, tu respectes le code de la route et puis tu as quelqu'un qui s'en bat les couilles, qui te fait chier, qui te double tout le monde. Et du coup, enfin bref, on n'est pas là pour ce.
Ouais, non, mais le vélo à Paris, c'est super stressant. Ouais. Très, très stressant.
Mais on est du coup ici plus pour parler de pourquoi. Et mon prochain pourquoi, c'est pourquoi est-ce que le nombre 13 porte malheur?
Pourquoi?
Merci, Fifi. À ton avis,
Fifi,
Elias.
Caca. il me semble que c'est issu du fait que c'est être 13 à table. Qui porterait malheur et que du coup ça a été décliné et le 13 à table je crois que ça vient de la scène genre dernier repas de Jesus Louise j'ai pas spécialement de source là-dessus
c'est assez intéressant et puis Camille elle dit à peu près la même chose que toi parce qu'elle disait parce que pendant le dernier repas de Jésus donc la scène ils étaient 13 à table elle posait la question mais pas que on va quand même rentrer un peu plus dans les détails. Et aussi parce qu'on a arrêté les Templiers un vendredi 13.
Ah.
Et bien écoute, elle a traité mes deux axes du sujet.
Et très bien, allez, salut, la suite. Et notons que Juan s'en bat les yeux parce qu'il n'a pas répondu.
Peut-être qu'il a peur que ça lui porte malheur. Du coup, il a
Incept 13 Friday.
Alors, on va surtout parler donc du 13, mais... Alors, comment dire ?
Comme un nombre, au final.
Déjà. Mais en fait, il faut savoir que ça ne porte pas malheur partout.
Ah oui, oui, effectivement. Surtout si c'est une origine biblique, oui, j'imagine. Bah,
et puis, c'est surtout un truc anglo-saxon, en fait.
D'accord.
Parce qu'en Italie, ce n'est pas le 13 qui porte malheur, mais le 17. Est-ce que tu sais pourquoi ? Rien à voir avec la police.
Parce qu'ils ont compté les serveurs pendant le repas du Christ.
Mais
je sais pas.
Le nombre de,
ouais, c'est ça, bah,
de raisins dans la dernière grappe.
Faut compter le petit personnel aussi. Hein, c'est...
Parce qu'il s'est étouffé sur le 17e, la 17e cuillère.
Enfin...
Ah bon ? Merde. Non, bah, en fait, 17, ça s'écrit XVII. Mm-hmm. Et c'est l'anagramme du mot latin vici. Vixi, vici.
Vaincu.
Qui veut dire non, j'ai vécu. Le fil rouge d'Ilias, ouais, il est passionnant. Non, ça veut dire j'ai vécu, et donc par extension,
du coup,
je suis mort.
Ouais,
mais enfin, voilà. Hein.
Ah ouais, c'est vraiment.
Mais on revient du coup sur le 13. Donc pourquoi le 13 ? Tout simplement parce que c'est le nombre qui suit le 12.
Ah oui, les 12 apôtres.
Exactement. Mais en fait, le 12 est considéré comme un nombre parfait. Tu as par exemple les 12 divinités de l'Olympe, les 12 constellations du Zodiac, 12 travaux d'Hercule, les 12 heures du jour, les 12 heures de la nuit. Ouais, c'est vraiment un truc sacré. Les 12 mois de l'année, les 12 coups de midi. Voilà, tellement de 12 que c'est devenu un nombre important.
Ça, c'est ouf. Et du coup, 13, ça serait un de trop. Et donc, on sortirait de cette...
Exactement. Ça suit que de 1. Et du coup, c'est au-delà du parfait.
Ouais. Pourquoi c'est pas la même chose pour 11 du coup ?
Eh ben c'est quasiment la même chose aussi, mais sur un autre niveau, mais je me rappelle plus.
Peut-être parce que 11 c'est joli, c'est genre 2 fois 1, c'est genre c'est symétrique.
Non,
ah,
mais okay, c'est surtout c'est au-dessus du nombre parfait. Donc
normalement, sky is the limit, donc là ça veut dire c'est un affront fait à Dieu.
C'est ça, c'est peu fiable et c'est opposé au divin, et donc c'est maléfique.
Ah.
Et en fait, avec le temps. Ça s'est ancré dans la société, là encore à cause de la religion, un peu comme les insultes.
La pédophilie. Pardon, excusez-moi. Oula, on glisse, pardon.
Et du coup, ouais, Camille et toi, vous avez raison sur l'histoire avec la scène, donc le dernier repas de Jésus, qui a eu 12 apôtres, mais pas que. Et puis toi, tu avais raison, c'est une expression d'être 13 à table, ça porte malheur. Ouais. Mais ça vient aussi de là.
Mais il y a 12 apôtres, mais Jésus n'est pas un apôtre.
Il y a 12 apôtres et il y a Jésus.
Ouais, donc ça fait 13 ans.
Ils sont 13 à table, mais la 13e personne arrivée à table, c'est Judas, le traître.
Je trouve que c'est Jésus et du coup ça porte malheur d'être le 13e. Non, mais je vais arriver en avance. Hein. Ça aurait été génial comme ça, on n'aurait jamais été en retard. Ah, le dernier qui arrive, on le bute. Le dernier qui arrive, il n'a pas d'apéro. Pardon, vas-y, je te coupe plus.
Jusqu'à ce qu'une autre personne arrive. Et du coup, t'invites tout le temps quelqu'un. Enfin bref, ça peut partir très vite en cacahuète. Et du coup, voilà, donc c'est Judas, le traître, qui est arrivé en dernier. Et du coup, voilà, donc ça porte malheur. Et encore, enfin, avec le temps, ça ne s'est fait que s'empirer. Mmh. Avec des grosses coïncidences, on ne va pas se mentir. Hein. Mais par exemple, la mission spatiale d'Apollo 13, où tu as les réserves d'oxygène qui ont explosé. La navette.
Non, pas de chance.
Non, la navette a décollé à 13h13. Depuis la station.
Ah, mais attends, 13h13, quel fuseau horaire ?
Oui, mais chez eux. Et elle a décollé depuis la station 39, 3 fois 13. Ouais. Coïncidence ?
Oui,
jeune.
Certainement. Parce qu'il y a plein de choses qui sont passées un 13 et qui se sont bien passées.
Genre,
ma soeur est née un 13 avril, il est encore vivante.
Oui, alhamdoulilah.
Ouais. Moi, je vais l'appeler après. On sait jamais.
Mais en gros, avec tout ça, inconsciemment, on s'est mis tout seul dans la tête, avec tout le monde. Hein.
Puis t'as un autre biais de confirmation, je crois, où tu vas principalement noter les faits qui vont valider ta théorie de base.
Et quand il se passe rien avant vendredi 13, tu le prends pas en compte. Alors
exactement.
Que...
Tu vois 2000 trucs basés sur un 13 qui se passe bien, tu fais pas gaffe, et dès qu'il y en a un qui se passe mal, t'es genre « Ah ah, je le savais !»
Ça, c'est une...
Théorie façon humoriste.
C'est ce que j'allais dire, un truc de F de Souche. Mais du coup, donc, Camille aussi nous avait dit, donc elle nous parlait des Templiers qui arrivaient un vendredi 13. Le vendredi 13, c'est encore un autre truc, mais c'est un peu dans le même délire. Et juste, j'avais noté un petit truc. Oui, le idécaphobe.
Ah, c'est la peur du nombre 13.
C'est la nom. Ouais, je voulais juste le placer. Ah, je savais pas quand même.
Triskaïdécaphobe. Triskaïdécaphobe, ok.
Voilà. Et puis il y a un truc pour le vendredi 13, mais je ne l'ai pas noté, je suis désolé. Mais du coup, donc, pour le vendredi 13, là aussi, c'est à cause de la scène. Parce que bah, voilà, le repas a eu lieu un jeudi, ils étaient 13.
Et le vendredi, c'est censé être le vendredi saint. Donc,
Bah, surtout qu'il est mort le lendemain, Jesus.
C'est vrai. Voilà. Bon, il est mort deux fois, donc là, ça brouille tout. Hein. Attends, il est mort le lendemain, donc un vendredi. Il est revenu trois jours plus tard et il est re-remort. Donc c'est pour ça que les lundis sont des jours de merde. Voilà, bah d'accord.
Je mettrai pas ma main.
Yes, nous sachons beaucoup.
Et du coup, donc il y a ça, mais là encore, il y a d'autres événements qui sont tombés un vendredi 13 et qui ont accentué ce phénomène. Mmh. Comme Camille le disait, donc déjà en 1307, Philippe le Bel arrête et torture les Templiers le vendredi 13. Et donc, tu as Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre des Templiers, qui maudit le roi Philippe et le pape sur 13 générations.
Oh.
Donc voilà, c'est voilà, un cumul.
Juste avant de mourir, on nous a bien fait chier. Genre, allez, 13, on va continuer de.
Et puis, juste pour finir, aux States, c'est chaud. Ils ont vraiment peur du 13. Mais ça part tellement loin qu'ils ont carrément un manque à gagner $1 million par an à cause de l'absentéisme, à cause des annulations des vols, à cause c'est de... Ouf. Et ils remarquent...
Mais comment ça, annulation des vols? Parce que quand tu commandes ton vol, tu vois bien que c'est un 13.
Oui, mais enfin, tu le remarques pas forcément ou des fois, tu n'y penses pas forcément. Tu vois que c'est un 13, mais tu ne sais pas que c'est un vendredi ou vice-versa, ou peu importe.
Ouais.
Mais pareil, c'est les mariages... honnêtement, j'ai vu deux trucs différents.
Ouais, on va dire c'est de l'argent, quoi. Parce que je me disais 1 million sur un pays de 330 millions bien sûr. Sur l'année...
Mais moi, je suis tombé sur un article où ils disent 1 million, et je suis tombé sur un autre article où ils disent 111 millions. Il y a quand même une différence. Mais en gros, voilà, l'idée, c'est qu'ils perdent.
Même fait, 111 millions, ça fait 30 centimes par personne.
Entre
3 et 30 centimes par personne, ça va.
Ouais, mais c'est chaud en fait. Ils remarquent carrément une dégradation du commerce le 13e jour du mois.
Ok,
c'est fou. Et une autre stat, et je vais finir sur ça, que je trouve assez folle. En Caroline du Nord, 80% des gros buildings, 80% n'ont pas de 13e étage.
Ah.
Putain, c'est donc.
Mais parce qu'ils sont plus petits ou parce que.
Non, sur vraiment les. Sur vraiment les gros buildings, les skyscrapers et tout ça.
Il me semble que c'est dans.
Pareil dans les hôtels, il n'y a pas de chambre 13.
Au Japon, je crois que c'est le numéro 4.
Il y a le 13 aussi, parce que je me rappelle avoir visité mon frère qui habitait au 62e étage, un truc comme ça. Et j'avais remarqué qu'il n'y avait, avait pas le 13e étage.
C'est possible. Mais après, il y a une petite absorption avec le temps de croyances bibliques. Biblique. Mais sinon, je crois que c'est le 4, parce que par rapport à la prononciation, une des prononciations du chiffre 4, ça peut signifier mort. Je crois que c'est Chine, je ne suis pas sûr. Bon, bref, je ne vais pas dire de bêtises. Mais du coup, il y a effectivement pareil, plein d'hôtels où il n'y a pas d'étage numéro 4.
Ouais, c'est fou.
Mais super intéressant. Et au passage, perso, j'adore l'histoire des Templiers. Donc ça me donne envie de
faire un sujet, par exemple.
Ouais, mais ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Mais du coup, c'est long. Mais l'histoire des Templiers, je la trouve trop bien. C'est genre des mecs qui se sont fait genre, allez, on se bat pour Dieu. C'est genre, on est des soldats, on est OK pour le faire pour Dieu. Et après, t'as l'église qui fait. Après, t'as l'église qui fait genre, bah, nous, on est fauchés, vous, vous avez de la thune. Et si on disait que vous étiez pas bien pour Dieu? Allez, roule, c'est parti. Mais ouais, non, l'histoire.
J'aime bien ton interprétation, franchement, pas mal de tout.
J'avoue, j'ai un peu résumé, mais. Ok, bah, moi, j'ai fini avec mon dernier pourquoi, c'est le plus simple de tous. On va finir sur une petite touche, une petite touche facile. Il y a certainement beaucoup d'entre vous qui auront la réponse, mais je me suis dit. En fait, il y a aussi plein de gens qui le réalisent genre à leur vingtaine passée et disent genre « Ah, mais oui, c'est évident, je n'avais jamais réalisé. » Donc ma question est très bête. Pourquoi on dit « déjeuner » pour dire qu'on va manger ?
Pourquoi ?
Le sais-tu, mon cher ami ?
Moi, je pense que c'est une histoire avec le jeûne et du coup « dé », c'est l'inverse de jeûne. Et
oui,
du coup,
c'est effectivement ça. Donc Camille dit, bon là, on va pas mettre de suspense, enfin, c'est un tout petit pourquoi, mais qu'elle dit, parce qu'on stoppe le jeûne, et Juan dit, c'est dans le nom, donc on va pas le dire. Mais donc, effectivement, donc quand on jeûne, on ne mange pas. Donc, quand on déjeune, bah, on arrête de ne pas manger. Étrangement, bah, le petit déjeuner, c'est le repas qui rompt la période de jeûne la plus longue de la journée. Le mini-ramadan quotidien qu'on appelle dormir, en fait, tout simplement. À moins que vous soyez somnambule et que vous fassiez des petits casse-croûtes en dormant. Mais c'est vrai qu'on dit petit déjeuner, alors que bah, c'est le moment où on va rompre la plus grosse période de jeûne. Parce que, on va dire, entre 20h et 7h du matin, suivant. Bon, clairement, moi, je fais
vos habitudes.
Voilà, des petits caisses d'à la minuit. Mais, donc, ouais, moi, j'ai réalisé ça assez tard. Ça peut paraître bête, mais tu sais, tu dis, ah, on va déjeuner avec des amis, on va machin et tout. Et après, tu fais genre, jeûne.
Ouais, non, mais.
Déjeuner. Oh putain, c'est ouf. Et c'est assez rigolo, parce qu'on retrouve la même origine dans Breakfast en anglais.
Ah, mais c'est pas bête du tout.
Mais oui, parce qu'en anglais, jeûner, ça se dit too fast, donc, ou fasting fast. Quand on va jeûner. Et donc, breakfast, on rompt le jeûne.
Ouais, j'ai jamais.
Et ouais.
C'est fou.
Et eux, pour eux, c'est un peu plus logique parce que le breakfast, c'est le premier repas de la journée, quoi. Parce que, bon, en France, je vous passe l'histoire de à partir de quand on a fait des vrais petits-déj, etc. Et encore plus des petits-déj sucrés, parce que, comme tu l'as dit, le sucre est arrivé beaucoup plus tard. Ouais. Mais voilà, l'idée, c'est que déjeuner, bah, on arrête de ne pas bouffer. Et breakfast, bah, on rompt le jeûne également. Donc voilà, c'est comme si on avait des petits mini ramadans quotidiens tout au long de l'année.
Le grand remplacement.
Exactement. Mais voilà, c'est le genre de mot où on a des petites réalisations. Je peux en faire un mini aussi qui m'avait fait beaucoup rigoler. C'est après quand on dit que quelqu'un est fainéant.
Ah bah tu l'as dit en plus.
Bah voilà, c'est genre tu fais néant, ouais. Tu fais rien, t'es genre. Oh. Après il y a aussi feignant qui est une autre écriture où genre c'est l'idée de feindre quelque chose, qui a fainéant et feignant, genre F-E-I-G-N-A-N-T, où tu feins, de faire quelque chose. Mais j'aime beaucoup le fainéant, genre tu fais rien, quoi. Donc c'est pour ça, t'es un flemmard, tu fais rien. Et quand j'ai réalisé ça, j'étais genre, wow, c'est fou, les mots veulent dire des choses, je vois des mots.
Voilà, je vois des mots.
c'est très bête, mais moi c'est le genre de petite réalisation qui me fait plaisir.
Bah écoute, c'est assez intéressant et puis bah, un peu pour rester, c'est pas mon prochain mais je fais une petite parenthèse, j'ai appris bah, en cherchant mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'on dit WC pour aller aux chiottes?
Water closet.
Exactement, c'est fou, c'est une pièce d'eau en fait.
Bah oui, ouais. Effectivement c'est le placard à flotte.
Voilà.
Ah oui.
C'est fou, voilà.
Bah très bien.
Et vous en doutez, j'ai pas...
Oh, ça valait le coup.
Allez, on va finir du coup. Bah, j'ai commencé.
Comment on dit cuisine, et je finis. Parce qu'on cuisine dedans. Voilà.
Merci Elias. Donc, dernier pourquoi de cet épisode, c'est pourquoi est-ce qu'on baille et pourquoi c'est contagieux.
Pourquoi?
Mais oui, Fifi, pourquoi?
Parce qu'on porte pas de masque quand on baille. Parce que voilà. Parce que liberté. J'ai envie de bailler maintenant.
Ah, j'en étais sûr. À ton avis?
Alors c'est très très rigolo. Alors ouais, je crois savoir qu'on n'a pas encore d'explication précise dessus. Il y a plusieurs. Enfin en tout cas moi j'avais suivi plusieurs explications. Donc une par rapport à la régulation de la température de je sais pas une merde qui est derrière la nuque et qui fait que quand on ouvre grand la mâchoire et qu'on fait rentrer de l'air frais, bah du coup ça régule la température. Et aussi une question d'oxygénation. Donc on va en fait on va ouvrir la mâchoire, on va réouvrir des valves, des je sais pas quoi, et ça va faire passer de l'air pour aider à l'oxygénation du cerveau. C'est pour ça que ça arrive principalement quand on est fatigué. Donc on va donner un petit coup de boost d'oxygène au cerveau. Et il y a un des... Alors désolé si je spoil, mais un des petits faits qui est... Il y a une grosse question d'empathie également. Et donc il y a des analyses qui ont été faites sur est-ce qu'on est empathique... Enfin, on a plus tendance à bâiller suite à, après quelqu'un si on est empathique vis-à-vis de cette personne. Et ça marche aussi avec les animaux. Très rigolo.
Eh bah ben écoute, tu as... voilà. Merci.
Pardon. Non mais du coup, bon, je te salue.
Non mais c'est très, super intéressant parce que bah, c'est exact... Je pense qu'on a vu les mêmes TEDx. mais en tout cas, ouais, bien joué. Et on va quand même prendre les interprétations de Camille.
J'aime beaucoup celle de Camille.
Camille qui nous dit « Vos questions scientifiques commencent à me courir sur le haricot. » Ça peut être un bon
légume.
Pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on dit « courir sur le haricot » Et Juan qui nous dit « Je crois que c'est une histoire de thermostat, mais je ne sais pas pourquoi ça se refile comme le rhume, en fait. »
Ok. Ouais, en fait, il ne sait pas pourquoi, mais ça ne se refile pas comme le rhume.
Non,
ouais.
Exactement. Eh bien,
après vous, maître chouchou.
Après moi, du coup, ouais, moi, j'ai jamais autant baillé en écrivant ce pourquoi, avec tous les TEDx que j'ai regardés, du coup. Et la théorie la plus répandue, c'est qu'on baille pour alimenter le cerveau d'oxygène, parce que tu nous l'as dit. En fait, c'est pas vrai, ça a été débunké sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est quand même intéressant.
En plus, c'est satisfaisant, en fait, même si ça a été débunké, mais c'est satisfaisant de se dire que ça fait rentrer de l'oxygène pour qu'on se sente mieux.
Mais en fait, c'est, j'ai pas envie de sortir une bêtise, mais je crois que c'est Platon qui l'avait ouais, déjà à l'époque.
Il disait pas mal de conneries aussi. Hein.
Ouais. Ouais. Pas que.
Parce que les vieux philosophes, il y a eu des bons trucs, mais il y a aussi des petites conneries.
Mais voilà, c'est une histoire, c'est une théorie qui est restée dans nos têtes depuis très très longtemps.
Dans mais nos en fait, têtes,
baillées. Mais ça a été débanqué. Et comme tu as dit, tout le monde baille, même les animaux.
Oui.
Il y a un petit fun fact.
Les chiens qui baillent, trop mignon.
Tout le monde, enfin en gros, c'est tous les vertébrés, sauf la girafe. La girafe, elle baille pas.
Ah, trop bien.
Peut-être parce que c'est trop loin, du coup, je sais pas. Je trouve ça trop drôle.
Peut-être qu'elle est assez en altitude pour... ça se trouve, c'est une question d'altitude. Peut-être. Quand on baille, on ouvre la mâchoire et on lève un petit peu notre tête. On a juste besoin de ce petit centimètre. Non, j'en sais rien.
Ouais.
Trop bien, j'avoue. Je crois que je l'avais déjà entendu sur la girafe, mais j'avais oublié. Mm. Donc ça me fait très plaisir de le recevoir.
Mais on baille pas tous pour les mêmes raisons. C'est pas juste parce qu'on est fatigué déjà, non. C'est pas que quand on est fatigué.
C'est pas qu'on se fait chier.
Et les... pas que non plus.
Je
Moi, je me retiens depuis tout à l'heure. Mais par exemple, genre les pingouins, eux, ils baillent quand ils font des chocs à pic. Ouais, c'est leur.
Quand tu dis chocs à pic, c'est.
Ouais.
Ouais.
C'est... Ouais, non, ils mangent pas des chocs à pic.
Ils baillent.
Ouais.
Mais peut-être qu'ils se font chier en faisant des chocs à pic.
Mais pareil, genre les serpents, eux, ils baillent pour réaligner leur mâchoire. Après avoir bouffé un gros truc.
Ouais, non, mais en même temps, les serpents, ils peuvent bouffer une chèvre entière. Donc, ouais, tu m'étonnes, il y a un peu d'ostéo à faire, quoi.
Mais je reprends mes notes où j'ai écrit pour avoir gobé un gros turc. C'est pas la même chose, c'est un gros truc et pas un gros turc.
Alors, c'est potentiellement déjà arrivé, mais c'est vraiment pas du tout la même taille. Ouais. Oui, voilà.
Et puis, les cochons d'Inde, ils baillent quand ils sont énervés. Je trouve ça trop mignon.
Génial.
Tu me fais chier. Et même nous, enfin les bébés, ils baillent quand ils sont dans le ventre de leur maman. Et Ilias, ici.
Il n'a pas de baillé depuis tout à l'heure.
Donc ouais, Juan, il a raison. C'est une histoire de température, mais toi aussi, tu as raison, Ilias. C'est une étude. Il y a eu une étude en 2014 avec des scientifiques qui sont amusés à étudier le bâillement de 120 personnes. Et il s'avère que on baille déjà beaucoup moins l'hiver.
Ouais, j'étais en train de me dire, c'est vrai que c'est un peu un truc où on est genre tout cosy, tout au chaud.
Mais aussi quand
il
arrête pas de bailler. Mais aussi du coup quand il fait trop chaud, quand en pleine canicule on baille moins. Et en gros, quand ton cerveau est en surchauffe ou il dépasse plutôt le seuil entre guillemets, le seuil acceptable, le fait de bailler l'aide à revenir et puis à refroidir.
Okay.
En général, donc, on baille parce que on est fatigué, que le cerveau tourne au ralenti. Quand on se fait chier, le cerveau n'est pas stimulé. Du coup, tu as la partie droite de ton cerveau qui se met en action, donc la région frontale droite qui contrôle en gros l'anxiété, les émotions négatives, tout ça. Et quand on voit quelqu'un d'autre bailler, on est dans le même environnement en général que cette personne-là. Y a de grandes chances que toi aussi, tu as envie de bailler, mais tu ne le sais pas. Enfin...
Ah oui, du coup, ça te fait penser. Ce que je trouve trop mignon, c'est quand tu as envie de bailler après avoir vu genre, un chien bailler.
Ou plutôt,
ton chien baille après t'avoir vu bailler. C'est genre, il est comme moi.
En gros, voilà, ton cerveau te baille.
Moi, je suis traumatisé par... En fait, je déteste les gens qui t'engueulent quand tu bailles. Non mais tu sais genre ça me rendait ouf en cours quand j'étais au lycée ou truc comme ça, les profs qui te disent si je te fais chier vas-y, t'es genre en fait tu contrôles pas
c'est mon cerveau madame,
mais oui tu contrôles pas un bâillement, t'as envie de dire pardon. Si tu bailles la bouche ouverte en beuglant et tout, pas très poli,
faut pas faire
mais tu sais quand t'es juste en train de bailler, t'es genre pardon, je sais pas quoi te dire, je j'ai pas fait exprès quoi. Et du coup ça me traumatise parce que tu sais c'est comme les gens qui t'engueulent parce que t'as envie de pisser, t'es genre désolé, on a tous une biologie différente, je sais pas quoi te dire.
Et le fait de bailler aussi ça fait travailler ton visage. Il faut pas.
Il y a d'autres trucs qui font travailler le visage, mais oui, bon, pas.
Mais en gros, ça travaille ton visage, mais aussi ton corps, tes poumons, ils se dilatent. Donc, il y a plus de sang qui circule dans les muscles. Et donc, ça fait que ton cerveau, il se réveille un tout petit peu, quoi. Et il y a une autre étude qui a été faite sur 130 étudiants. Et c'est là, Ilias, où tu avais raison, qui montre que c'est un signe d'empathie. Mmh. C'est le côté pathos qui arrive. Et les résultats ont montré que moins une personne était empathique, moins elle bâillait.
Moins elle bâillait suite à un bâillement externe, quoi.
Ouais. Et il y a aussi un autre truc que j'avais vu, c'est pour ça aussi que les autistes bâillent moins.
Okay.
Parce qu'ils ont moins ce côté où
ils
se relatent à toi.
T'es moins réceptif et perceptif.
Mais bon, il ne faut pas non plus généraliser. Hein. Ça ne veut pas dire que tu bailles pas, que tu es un serial killer.
Oui, c'est la nature.
L'inverse aussi fonctionne. Il y a aussi une autre étude qui a montré que sur un échantillon de 100 personnes, 41 personnes d'entre eux ont baillé après avoir mis une bouillotte sur la tête. Et que 9% après, quand ils ont eu une poche glacée sur leur tête. Donc ça confirme un peu cette théorie de température.
Peut-être que le fait de bailler, c'est parce qu'il y a des fantômes qui nous mettent des bouillottes fantômes sur la tête. D'accord.
C'est fou.
Yes. Ça fait plaisir qu'on ait enfin trouvé.
Ouais.
On fera une petite publication.
Et je vais finir aussi avec un dernier truc. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est contagieux ? On a des neurones qui s'appellent les neurones miroirs, exactement, qui peuvent jouer aussi un rôle là-dedans. Donc, c'est des neurones qui s'activent quand on réalise une action et quand on observe quelqu'un la réaliser. Mmh. Par exemple, si tu es assis à côté de quelqu'un qui croise les jambes, inconsciemment, y a de fortes chances que toi aussi tu le fasses.
Ouais, c'est le fait d'être ultra réceptif, c'est lié à l'empathie et... Et je trouve que c'est assez ouf parce que ça explique aussi pourquoi, par exemple, quand on va voir un concert ou un truc comme ça, si on voit quelqu'un qui est passionné par ce qu'il ou elle fait, on va ressentir une partie de cette excitation, de ce plaisir, parce que c'est justement avec ces neurones miroirs où on va. Et pourtant, on va pas effectuer l'action, on va pas avoir les mêmes sentiments, mais enfin, on va pas être à l'origine de ce truc-là, mais on va être réceptif à cette excitation, à cette motivation. Et...
Tout à fait.
Et c'est très cool. Ah. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on a baillé une douzaine de fois. Une quinzaine de fois, j'ai encore envie de bailler, mais... Ah, merci. Et surtout, voilà, ne vous sentez pas. N'ayez pas honte de bailler, c'est naturel, c'est normal. Et puis, bon, le faites pas en gobant la tête de votre interlocuteur, parce que là, ça se voit que... En fait, ça se voit que vous foutez de sa gueule. Mais non, c'est bien de bailler. Écoutez, je pense qu'on va arriver à la fin de cet épisode.
Ah il faut.
C'était plutôt chouette. J'ai bien aimé ce format.
Ouais, c'est pas mal.
C'était dynamique.
Ça change.
Voilà. Puis on a parlé avec... Non, en vrai,
tu
penses
que c'est de la merde.
Je sais pas. Non, en vrai, moi, je trouve ça plutôt cool. Donc, à refaire. Et puis avec les petites contributions de nos amis d'outre-mer, non pas du tout, ils sont tous en France, mais avec une petite contribution de Camille et Juanito, mais ouais, à refaire, et puis on se retrouve dans 2 semaines.
Oui, et puis juste si jamais nos éditeurs ont des pourquoi aussi qui se posent des questions, on pourrait en faire un truc.
Tout à fait. Envoyez-nous vos pourquoi sur tous les réseaux sociaux. On est là. On a pris un petit peu de retard sur les réponses sur les réseaux sociaux, mais on est dessus.
Ça nous touche quand même.
Voilà. On est juste un peu plus lent, mais on est là. Faut pas incriminer les gens. Non, mais dans tous les cas, on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode avec un invité.
C'est un détecteur de conneries.
Si tout va bien. Et avec notre chère Camille. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin des uns et des autres.
Ciao. Dis-tu
un
bisou.
Le judice d'aller se faire enculer. Si.
Ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.